Good Morning Business, face à le Chypre.
Et on parle du G7 qui s'est terminé à Évian avec la signature de ce protocole d'accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient, avec un Donald Trump qui change d'avis aussi sur la résolution d'un conflit en Ukraine, qui ici va oser me dire que les G7 ne servent plus à rien. Emmanuel Le Chypre.
Ah non, moi je vais vous dire que ça sert à quelque chose. Moi je vais vous dire que c'est toujours aussi utile à condition qu'on les prenne pour ce qu'ils sont vraiment. Et les G7, c'est pas fait pour être un parlement mondial, c'est pas fait pour produire des lois, c'est fait pour coordonner rapidement les grandes puissances quand il y a des crises importantes. Et si on les juge uniquement sur ce critère, regardez au fil des années, on peut dire qu'il y a quand même eu des résultats qui sont extrêmement intéressants, et même dans les derniers G7, c'est créé en 75 au moment des chocs pétroliers, mais la vraie motivation, c'est quand même les dérèglements du système financier international. Les chocs pétroliers, oui, ça a permis une gestion coordonnée des chocs pétroliers. Regardez les grands accords monétaires des années 80, accord du Plaza, accord du Louvre, pour calmer la hausse du dollar, pour calmer l'endaka, la flambée du yen, ça a plutôt bien marché. Au moment où il a fallu intégrer les pays de l'Est après la chute du mur de Berlin, il y a quand même eu des impulsions intéressantes.
C'est loin, l'annulation, tout ça.
Oui, mais l'annulation d'une partie de la dette des pays pauvres, la crise financière de 2008. Après, ok, on a fait le G20, mais le noyau de la coordination financière, il a quand même commencé au G7. Les sanctions contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine, le plafonnement des prix du pétrole russe, on l'oublie trop souvent, c'est une mesure du G7. La coordination sur les semi-conducteurs face à la Chine et là aussi le soutien financier à l'Ukraine. Et on peut pas dire que sur le soutien à l'Ukraine, il ne s'est rien passé au G7 d'Évian. Deux, on ne le soulignera jamais assez, l'importance au plus haut niveau des relations personnelles entre grands dirigeants. C'est très important quand vous avez des grands sujets à traiter, quand vous avez des urgences à traiter, que vous ayez au téléphone un Premier ministre, un Président que vous connaissez, avec qui vous avez discuté. Il y avait des études qui m'avaient frappé, qui étaient sorties au moment du Covid, où on montrait en fait que les grandes manifestations qui s'étaient tenues en visio produisaient des résultats beaucoup moins efficaces que les grandes manifestations au cours desquelles les dirigeants pouvaient se parler aussi dans les couloirs et à la machine à café. Et puis, je veux dire, au moment où il y a presque plus d'institutions internationales qui fonctionnent, l'ONU, c'est mort, l'Organisation mondiale du commerce, c'est mort. Donc c'est quand même bien d'avoir des grands moments, des grandes parenthèses où les grands de ce monde se parlent ensemble.
Oui, ils ne donnent pas tous des résultats, hein, pas tous les ans. Jean-Marc Daniel, vous en pensez quoi ?
Alors, justement, la question qui se pose, et Emmanuel l'a posée au tout début, c'est à quoi ça sert et pourquoi ça a été créé ? Alors, ça a été créé en 1975, ça n'a rien à voir avec les chocs pétroliers. Ça a été créé parce qu'en 1973, les Américains, en mars 1973, ont abandonné l'échange fixe. Et donc, le véritable enjeu, c'est le rétablissement d'échanges fixes. En août 1973, les Américains ont obtenu le départ de Pierre-Paul Schweitzer de la direction du FMI. Donc, on est dans une situation où les Américains imposent une règle du jeu où ils refusent les DTS, le fonctionnement du FMI préparé par Pierre-Paul Schweitzer, et ils refusent le retour aux changes fixes. Alors, 73, ils ne peuvent pas obtenir un sommet tout de suite. 73, c'est la guerre des six jours. 74, c'est la démission de Nixon. Et Valéry Giscard d'Estaing prend l'initiative en 75 de faire un sommet pour revenir au change fixe. Nous ne sommes toujours pas revenus au change fixe. Quant à la liste des décisions qui ont été égrenées, effectivement, alors, sur le dollar, le G7 n'a pas pris position sur la montée du dollar, mais il a pris position sur la baisse du dollar, et les accords du Plaza et du Louvre, c'était sur comment limiter la baisse du dollar. Et puis ensuite,
limiter la hausse et la baisse.
Mais sur la hausse, il n'avait pas pris position, assez paradoxalement. Il a pris position sur comment limiter la baisse. Et ensuite, vous avez effectivement les grands sommets sur la dette, et le dernier sommet sur la dette, c'était il y a 30 ans. C'était à Lyon, et donc je prends le communiqué du sommet, et donc ça commence par l'objectif du G7 est de continuer à stabiliser et à organiser la stabilisation du système de change. C'est un G7 français, Lyon. Je prends un autre G7, et le G7 de Biarritz, le dernier français avant. Communiqué. La surveillance du système de change et de son fonctionnement demeure le domaine d'action privilégié du G7. Le système de change est toujours aussi désorganisé. G7 d'Évian. Alors, il n'y a pas encore le communiqué officiel, en fait. Ouais. Bon, mais il y a le communiqué des ministres des Finances qui est associé, qui est l'essentiel du communiqué. Et donc, ils sont réunis au mois de mai. Lors de ces deux journées de discussion, les ministres des Finances et les gouverneurs de banques centrales ont travaillé à la réduction des déséquilibres macroéconomiques importants et persistants, collectivement reconnus comme freinant la croissance et générant des tensions géopolitiques. Ils se sont accordés sur l'intérêt des pays en surplus comme des pays en déficit à résorber leurs déséquilibres. Et la phrase suivante, c'est « Nous sommes là pour garantir la stabilité monétaire ».
Mais Jean-Marc, si on avait fait...
50 ans que les mecs garantissent la stabilité monétaire. Jean-Marc, 50 ans si qu'ils, on avait se prennent, fait... qu'ils se moquent de nous.
Si on avait fait un débat sur l'utilité des communiqués finaux du G7, je vous aurais suivi, mais vous savez très bien que c'est un exercice extrêmement convenu dans lequel chaque mot compte. Ce qui compte, c'est finalement ce qu'on ne voit pas. C'est effectivement toutes ces coordinations qui se font à chaque fois, et vous ne pouvez pas nier que sur tous les sujets qu'on a évoqués, même les plus récents, guerre en Ukraine, etc., il y a eu des avancées qui ont été permises par le G7. Regardez quand même Donald Trump, le changement de comportement sur l'Ukraine. On peut pas dire que il est venu à Evian pour rien. Donc moi et puis il faut évoluer aussi, Jean-Marc. Je veux dire, les missions de toutes ces institutions. Regardez, vous citiez le FMI tout à l'heure. Le FMI, ça a été une organisation qui était chargée de veiller sur les balances des paiements mondiales. Puis après, ça a été le pompier qui s'est occupé des pays pauvres. Et puis leur mission a évolué au fil du temps. Je veux dire, il faut s'adapter. Le G7 s'adapte. On y discute. On y prend des décisions importantes. Ça met du rouage quand même dans la coordination mondiale de façon déterminante.
Merci, messieurs. Très vite, Jean-Marc.
Juste une phrase. Il faut évoluer. Et il y a une évolution sur laquelle le G7 n'a peut-être pas pris conscience. C'est qu'en 1975, il représentait 70% de l'économie mondiale. Et les trois pays qui n'étaient pas membres du G7, qui étaient dans les 10 principales, c'était l'Allemagne de l'Est, l'URSS et le troisième, je me souviens plus ce que c'est. Aujourd'hui, il ne représente plus que 40%. L'Allemagne de l'Est n'existe plus. Et les trois pays qui sont pas membres du G7, c'est la Chine,
d'où le G7 parallèle. D'où le G7 parallèle.
Mais la quasi-totalité des grandes économies libres.
Merci messieurs, merci pour ce débat.